C'est un podcast Vivre FM. Et on commence cette émission jusqu'à 13h45. Nous parlons des aidants familiaux, plus précisément des jeunes aidants, de ces jeunes enfants, ados ou jeunes adultes qui aident un proche malade en situation de handicap. On a avec nous Eva. Bonjour Eva.
Bonjour.
Donc vous êtes, vous étudiez actuellement dans un lycée.
Exactement.
Voilà, vous avez une vie tout à fait normale et à la maison, vous êtes aidante de votre frère.
C'est ça. J'aide mon petit frère Lubin, qui a 14 ans, et j'ai également une sœur de 17 ans qui est comme moi, jeune aidante.
Voilà, et ça vous prend beaucoup de temps, ça vous prend émotionnellement aussi, c'est lourd à porter ?
Oui, ça me prend plus de poids que de temps, je dirais, au quotidien. Avec ma sœur, on aide surtout nos parents, puisque c'est eux qui s'occupent le plus de notre frère, donc on les soulage surtout dans des tâches quotidiennes, mais ça arrive aussi également qu'on aide notre frère à s'habiller, par exemple, aller dans son lit, enfin, plein de petites choses comme ça au quotidien.
Oui, ouais, il faut être prêt très rapidement.
Oui, c'est ça, il faut être alerte un peu tout le temps.
Oui, oui. Donc c'est quelque chose qui reste dans votre esprit en permanence ?
Bah oui, on y pense souvent, enfin tout le temps. On se demande tout le temps si nos parents ont besoin d'aide, si on n'est pas là, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose ? Enfin, ça prend beaucoup de place.
Oui. Oui, alors on va continuer d'en parler avec vous, Eva, vous restez tout au long de cette émission. Je me tourne vers François Chilovix. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur.
Oui.
Et vous avez une actualité puisque demain, votre film documentaire sur les jeunes aidants passe sur France 2.
Oui, tout à fait. Un film qui s'appelle « Plus grand que soi ».
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a... Et justement, Eva en fait partie d'ailleurs.
Oui, oui, Eva est un des jeunes aidants du film. Ils sont quatre jeunes.
Voilà.
À témoigner de leur vie. Alors, je crois que ce qui était intéressant d'entrée de jeu, quand le sujet m'a été proposé, je ne l'ai pas choisi, hein, c'est que j'ai fait la rencontre avec cette association Jade dans l'Essonne, qui accueille des jeunes aidants pour des temps de répit, durant lesquels on les accompagne pour réaliser des petits courts-métrages où ils expriment à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence ce qu'ils éprouvent. Or, on se rend compte que les enfants sont des éponges, qu'ils absorbent beaucoup de choses et qu'ils ont du mal à restituer. Ces ateliers Jade, je les ai trouvés vraiment très bien parce que dans leurs courts-métrages qui sont en ligne, d'ailleurs sur YouTube, au nom de Jade, ces jeunes enfants racontent très très bien la vicissitude quotidienne de ce que c'est qu'un aidant. Que ce soit des activités physiques qu'il faut faire, des tâches à accomplir, ou que ce soit une présence permanente, c'est-à-dire l'occupation du cerveau, le temps de cerveau disponible, c'est encore bien plus écrasant, comme le disait Eva, que des gestes à accomplir. Et donc, à travers ce court-métrage, je me suis dit, bon sang, ces jeunes ont quelque chose à nous dire. Ça m'intéresse d'aller. D'abord, j'avais toujours rêvé de faire un film sur les adolescents. Mais c'est quand même pas facile de faire parler des adolescents, à part leur demander, alors ta petite copine, ton petit copain, les études, l'école, etc., tes parents. Donc ça, je voulais pas, mais parler vraiment avec les adolescents, les rencontrer dans leur personne qui se construit. Et là, j'ai trouvé que j'avais comme un filtre, un prisme spécial à travers les danses. On avait des jeunes qui avaient une maturité singulière, on va dire. On ne peut pas dire exceptionnelle, singulière. Je dirais que ces jeunes sont tous singuliers parce qu'ils ont un sens de la responsabilité considérable, ce qui est quand même le contraire de l'adolescence où on a du mal avec ses responsabilités, on est très égocentrique, très tourné vers soi. Donc là, il y a une partie de leur vie qui l'empêche, qui génère de la souffrance, mais qui génère de l'intérêt et de l'intelligence. Et c'est donc pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce film, après avoir vu les courts-métrages, en disant maintenant, je veux rencontrer ces ados. On va avoir d'autres sujets pour se rencontrer que les thèmes classiques de l'adolescence, sur un sujet qui se déporte, sur un tiers, et on va les voir se construire.
Oui, et vous connaissiez ce système d'aidance, justement, les aidants qui sont la plupart du temps des adultes, il y a quand même moins de jeunes aidants, vous connaissiez ce...
Non, j'étais totalement étranger au sujet, parce que ça s'est jamais passé par ma vie, ni par mes proches, j'ai jamais eu à aider, ni encore moins à être aidé. Juste le hasard a voulu qu'au même moment, pour Arte, donc notre chaîne, on m'ait demandé un documentaire que je suis en train de réaliser sur les auxiliaires de vie, sorte d'aidants professionnels.
Oui.
Donc ça c'est un peu, c'était avant le Covid que les deux chaînes m'ont demandé ces films-là. C'était un peu après la période Gilets jaunes, je pense qu'ils cherchent les deux chaînes, avec les auxiliaires de vie ou les aidants, chercher à rassurer la société, trouver des exemples positifs, des choses qui rassurent. On verra plus tard, ça c'est les auxiliaires de vie qu'elles ont été en plein dans la crise du Covid, hein.
Oui.
Ça c'est autre chose. C'est pas l'objet de l'émission, mais en tout cas, je crois que ce qui intéressait les chaînes à ce moment-là, c'était sans doute d'avoir un sujet positif, constructif. Alors, y a des limites. Si Eva et Alice vont bien, c'est parce qu'il y a une famille très structurée qui va autour. Il y a d'autres jeunes aidants qui sont beaucoup plus isolés, et surtout, et ça c'est très important, et là le film a son intérêt, son utilité, une quantité considérable d'aidants qui s'ignorent, avec un entourage qui ne sait pas le repérer. Des adolescents à la dérive, on en voit. Que ce soit la drogue, la mise en danger, scarification, enfin toutes les bêtises qu'on peut imaginer, on est tous passés par là. On voit souvent, on ne sait pas pourquoi. L'aidant, c'est une sérieuse piste. Si vous voyez un adolescent qui dévie à un moment donné, c'est qu'il y a un conflit de loyauté en lui. On en parlera, c'est comme c'est là-dessus que conclut le film.
Oui, vous avez vraiment observé les difficultés qui peuvent se répercuter sur la façon d'agir de l'adolescent, qui peuvent même le mener à des actions de délinquance. Ça peut même aller jusque-là.
Délinquance pour certains, mais il y a plein de façons de se faire du mal sans aller en faire aux autres.
Hein. Il suffit bien sûr.
Un des personnages du film, la scène a été coupée, au final c'était une histoire de longueur. Quand même, c'est le personnage de Cynthia, c'est quand même scarifié pendant des années à partir de l'âge de 9 ans. Donc toute cette violence qu'elle vivait dans sa tête, elle l'a retournée contre elle et personne ne le voyait. Ses parents ont mis 4 ou 5 ans pour voir qu'elle avait la peau coupée de partout, sur les jambes. On le voit très bien dans le film qu'elle a plein de cicatrices. Qu'est-ce qui se passait ? Elle était déchirée, en plein conflit intérieur.
Oui.
D'un côté, je dois m'occuper de ma maman et je culpabilise parce que je ne m'en occupe pas assez. De l'autre côté, j'étouffe parce que je ne vis pas ma vie, mais je ne peux pas la vivre. Et ça, c'est un conflit intérieur. Avec l'adolescence, ça devient de plus en plus explosif parce qu'on doit penser à soi pour se construire à cet âge-là. Et donc voilà, ce conflit loyauté. Si vous voulez, c'est tout simple. Quand on est un vrai aidant, on ne dit pas « je passerai vers 5 heures te donner ton café ». Si le café, c'est à 5 heures, on vient à 5 heures moins 5 piles et on ne fait pas sentir à l'autre qu'on vient pour l'aider. On n'arrive pas 10 minutes plus tard pour lui faire sentir. C'est ça, c'est la loyauté pure.
Oui.
Or, tous ces jeunes sont habités par une loyauté tellement forte qu'aucun n'a réussi à en parler, sauf un aidé, Lubin, qui parle de ses sœurs, dont il reconnaît la loyauté. J'ai été très heureux quand il l'a dit, parce que c'est ce que j'ai pensé dès le début. Ils ont un conflit de loyauté, on en a plein, tous. Dans l'adolescence, on en a. Ils le résolvent en général du bon côté. C'est-à-dire du côté de l'aidance, mais c'est dur, donc il faut les écouter et il faut les aider.
Oui, Eva, justement, Lubin, c'est votre petit frère qui a 14 ans.
Oui, c'est ça.
Et vous avez du mal à vous considérer comme aidante, à prendre en compte votre statut d'aidante, tout ce que vous pouvez faire pour lui ?
Bah justement, avant, je ne me posais même pas la question. Et quand j'ai découvert l'association JAD, j'ai entendu pour la première fois le terme de jeune aidant. Donc, ma mère nous en a parlé grâce à une amie de la famille. Elle nous a demandé si ça nous intéresserait de participer à un stage dans lequel on allait faire un court-métrage pour parler de ce qu'on vit au quotidien en tant que jeune aidant. Donc ça a attisé ma curiosité. Je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est qu'un jeune aidant. Enfin, j'en fais partie. Il y en a d'autres. Et c'est donc par ce biais que j'ai découvert donc le terme de jeune aidant, et j'ai découvert d'autres jeunes aidants. Et même si on n'a pas tous les mêmes situations, on s'est tous reconnus quand on s'est rencontrés. On savait déjà qu'on avait quelque chose en commun, même si nos situations n'étaient pas vraiment les mêmes.
Vous vous reconnaissez, c'est ça ? Il y a quelque chose qui passe ?
Bah ouais, c'est ça. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais d'un côté, on sait un peu ce que les autres vivent. Et on peut le comprendre, puisqu'on vit des situations un peu similaires. Et donc, ça crée quand même des liens. Ça peut créer des liens assez forts. Et voilà.
D'autant que, si je peux me permettre, beaucoup d'entre vous témoignent que d'habitude, vous n'en parlez pas. Ni aux copains, ni en classe. Martin le dit, c'est soit par respect pour l'aider, pour ne pas l'enfoncer en plus,
oui.
Ou parce qu'on se dit que les autres ne vont pas comprendre que j'ai un problème à la maison, une responsabilité si lourde, ils ne vont pas comprendre tout ce que ça comporte. Donc souvent, les jeunes aidants se disent « moi j'en parle, mieux je me porte ». Donc se retrouver ensemble, il doit y avoir un signe silencieux entre eux.
Bah ouais, c'est ça, moi. Tous mes amis savent que j'ai un frère qui est en fauteuil, qui a une maladie, mais j'ai jamais évoqué le fait que je l'aide tous les jours, que c'est lourd à vivre, parce que tout simplement, c'est normal pour moi, ça fait partie du quotidien. Et à la fois, je voyais pas trop au début l'intérêt d'en parler, parce que je me disais, qu'est-ce que ça va faire aux gens, ils s'en fichent, c'est quelque chose qui se passe chez moi. bon, voilà, j'ai pas trop envie. Enfin, surtout ma sœur se disait souvent qu'elle a pas envie qu'on s'apitoie sur son sort. Enfin, elle a pas envie de se plaindre. Mais en fait, quand on rencontre d'autres jeunes aidants, bah, ça fait aussi du bien pour ça.
Oui, oui. Votre sœur qui aide également, est-ce qu'elle fait partie aussi de l'association JADE dont vous faites partie justement ?
Elle a participé effectivement au stage JADE les deux premières années. Moi, j'ai participé aux trois premières années et maintenant, j'ai intégré l'équipe d'animation pour certains stages. En tant qu'animatrice, quoi.
Oui, donc vous pouvez aider de plus jeunes que vous ?
Bah, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce que vous pouvez... vous avez une autre vision, maintenant vous avez la vision d'un adulte. Qu'est-ce que vous percevez que vous ne perceviez pas à l'époque où vous étiez adolescente et jeune aidante, mais vous étiez aidée par l'association ?
Au sein de l'association, maintenant que je fais partie de l'équipe d'animation, je pense que le fait d'avoir participé au stage JADE, ça m'aide à aider les jeunes qui vont parler d'eux à travers leurs films. Peut-être que ça les aide aussi à se lâcher un peu dans ce qu'ils vont dire dans leurs films, parce que moi je m'imagine en tant que jeune aidante au sein de JADE, quand j'étais plus jeune, avec un animateur ou une animatrice qui vit ou qui a vécu des situations similaires, je pense que j'aurais moins de mal à m'exprimer avec quelqu'un autour qui comprend et qui vit les mêmes situations. Donc, je ne sais pas si ça aide.
Et pourquoi justement on a du mal à en parler à quelqu'un qui ne connaît pas ce sujet ? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile ?
Pour moi, en tout cas, maintenant j'ai moins de mal du coup, mais avant j'avais peur qu'on me comprenne pas forcément ou qu'on trouve ça, qu'on trouve que c'est rien. Et à la fois moi je minimisais ce que je vivais, mais à la fois j'avais envie d'en parler au fond, je pense, mais j'avais peur aussi que les autres minimisent ça et qu'on me dise au final c'est rien, arrête de te plaindre.
Oui, c'est symptomatique justement des jeunes aidants, ce que vient de nous dire Eva, François.
Oui, déjà il y a une forme de dignité, c'est-à-dire qu'on a une gêne à se plaindre soi-même face à la personne qu'on aide ou en relation avec la personne qu'on aide, qui forcément est bien plus atteinte que soi-même. Que ce soit un petit frère en fauteuil, une maman en grande détresse, comme la maman de Cynthia ou le papa de Martin, qui a des troubles du comportement sévères.
Qui font partie de votre documentaire.
Oui, oui, qui sont les personnages. Ils ont du mal à en parler, parce que c'est plein de petites choses qu'ils ne savent pas décrire, qu'ils ne savent pas relever. Des fois, je pense que l'atelier JADE leur permet de relever dans du quotidien des choses qui leur semblent normales et qui ne sont pas tout à fait normales. Et je crois qu'ils s'en rendent compte sur place. Je ne connais pas personnellement la réalisatrice qui a mis en place ces ateliers. C'est une réalisatrice qui a créé ça il y a 5 ans, qui s'appelle Isabelle Brocard. En tout cas, c'est un très beau travail. J'ai vu le film qu'elle a fait sur les ateliers. Manifestement, je pense qu'elle a dû vivre ça un peu elle-même. En tout cas, dans l'écoute qu'elle a, alors des fois elle induit un peu des choses, mais elle écoute vraiment, elle tire des fils des jeunes petit à petit. Pourquoi tu fais tout le temps le ménage ? Pourquoi cette obsession du ménage ? Parce que je suis en colère contre moi, parce que j'ai pas été assez sympa avec ma maman qui est malade. Donc pour pas taper et faire une colère, je fais le ménage. Enfin, et là, elle sort des fils comme ça.
Oui, oui.
Et donc, mais comment vous voulez raconter ça à un copain de classe ? Ouais. Un cousin, un oncle, une tante. Attends, mais il y a ton frère qui est en fauteuil. C'est des choses difficiles à raconter.
Oui. On va faire une petite pause. On revient juste après François Chilovix et Eva. Eva, vous êtes jeune aidante. François, votre film documentaire sur les jeunes aidants passe demain sur France 2. On continue d'en parler avec vous deux. Et nous parlons des jeunes aidants, ces jeunes aidants familiaux qui aident au quotidien un proche malade ou en situation de handicap. Comment vivent-ils cette situation souvent difficile ? Qui sont-ils ? Un documentaire leur est consacré qui sera diffusé demain sur France 2. On en parle aujourd'hui, le nom du documentaire c'est Plus grand que soi, on en parle avec le réalisateur François Chilovix et on en parle avec des aidants, deux jeunes aidantes. Nous avons avec nous en studio Eva. Eva, vous restez avec nous, d'ailleurs vous n'avez pas le choix, vous êtes là. Vous connaissez Amélia qu'on va prendre en ligne dans 2 secondes ?
Oui, en effet, je la connais par le biais de l'association JADE.
Voilà, elle fait partie de JAD, Jeunes Aidants Ensemble, une association, ça doit être la seule association en France qui s'occupe des jeunes aidants.
Oui, c'est l'association nationale des jeunes aidants.
Voilà. Amélia, bonjour.
Bonjour.
Amélia, vous êtes jeune aidante également, vous avez 18 ans. Est-ce que vous connaissiez, avant d'entrer à JAD, votre statut de jeune aidante? C'est-à-dire, est-ce que vous saviez que vous étiez jeune aidante?
Alors, pas du tout. Je ne savais pas du tout que j'étais jeune aidante. C'est vraiment grâce à l'association JAD que j'ai découvert que je n'étais pas seule dans ce cas.
Oui. Allez-y.
En fait, j'ai toujours pensé que c'était toujours naturel, que c'était toujours été normal d'aider du coup mon frère.
Oui.
Qui a un handicap et une maladie rare.
D'accord. Votre frère, il est un tout petit peu plus âgé que vous. Comment vous l'avez aidé tout au long de votre vie?
Je l'ai aidé au quotidien. Je lui donnais ses médicaments, je l'ai aidé pour l'hygiène, ses vêtements, je l'occupais, je l'accompagnais à ses rendez-vous. Je gère aussi ses crises d'épilepsie et tout ce qui va avec.
Oui, vous avez 18 ans, mais alors à partir de quel âge vous avez commencé à aider?
Depuis petite.
Oui, c'est beaucoup de travail tout ça?
Oui, énormément, mais on s'adapte.
Oui, et justement, comment vous avez pu vous adapter, vous?
Avec mes parents, on s'est organisé pour que j'ai aussi le temps de travailler pour l'école, pour que je fasse aussi des activités extrascolaires. On a toujours su s'adapter et s'organiser comme il se doit pour que j'ai du temps pour moi, qu'ils aient du temps pour eux et qu'on puisse en même temps s'occuper de mon frère.
Oui, oui, oui. Alors j'imagine que ça doit être pesant. Est-ce que vous aviez le temps de regarder la télé, par exemple, d'aller voir des amis à l'extérieur?
Pas vraiment. Souvent, je préfère rester à la maison et garder mon frère qu'aller sortir avec des amis.
Oui.
Sortir avec des amis,
oui. Oui. Je me tourne vers vous, François, qui avez réalisé un film sur ces jeunes aidants. Ouais. C'est typique plutôt qu'aller s'amuser, on va aider le petit frère, même si c'est difficile?
Je n'ai pas fait une enquête assez approfondie pour l'affirmer, mais oui, je pense que tous les jeunes que j'ai vus, on revient toujours à ce conflit de loyauté. En plus, ça resserre la famille. Toute la famille est obligée de se solidariser, c'est-à-dire que si les adolescents n'aident pas les enfants, les parents, je veux dire, les parents n'y arrivent pas, donc à un moment donné, on se sent responsable les uns des autres. Donc c'est un système familial qui est tellement fort, tellement prenant, qui, par la force des choses, vous enferme, non pas par méchanceté, mais par nécessité, et nécessité fait loi, et ce qui fait que c'est très dur de se penser en dehors de la famille. Et que chaque fois qu'on est en dehors de la famille, on se dit, est-ce que je vais manquer un épisode où j'aurais pu être utile? Est-ce que j'ai manqué un épisode qui peut être intéressant dans le positif ou triste dans le négatif, mais je vais avoir tout vécu de ce qui concerne mon frère, mon père, oui, ma mère ou ma sœur? Donc ces jeunes-là vont très souvent privilégier de rester à la maison à faire comme la mère aidante, ou à s'occuper du frère aidé, ou à faire comme le frère aidant, enfin, à mimer et à reprendre les mêmes gestes et se construire autour du système familial. Ça devient un cocon, quelque part.
Oui.
C'est étonnant. Hein.
Amélia, vous entendez ce que dit François Chilovix? Vous vous reconnaissez un petit peu dans ce qu'il dit?
Oui, complètement. Complètement.
Oui. Et alors, donc ça vous a toujours paru normal, puisque vous avez toujours fait ça, vous avez toujours aidé, donné beaucoup de votre temps, de votre énergie. Vous en parliez autour de vous? Vous aviez des amis, des copines qui faisaient la même chose? Ou alors c'était quelque chose que vous gardiez pour vous? Vous deviez quand même voir que vos copines n'avaient pas forcément les mêmes activités?
C'est totalement ça. En fait, je le gardais pour moi. J'en faisais pas peur à des amis. Que vraiment, quand ils allaient venir à la maison, je les prévenais. Oui, donc voilà, j'ai un frère qui a un handicap rare et une maladie rare. Voilà, et souvent ils sont un petit peu réticents par rapport à ça.
C'est-à-dire que vous sentiez que vos amis avaient été un peu gênés par cette situation?
Oui, c'est ça. Ouais. Après, c'était plus jeune. On était plus jeunes.
Oui, oui, oui. Donc ça devait retomber un petit peu sur vous. Vous deviez être mal à l'aise vous-même?
Un petit peu, oui.
Ouais. Et aujourd'hui, vous le vivez comment, tout ça? Vous avez 18 ans?
Aujourd'hui, je le vis toujours de la même façon. Après, si, par rapport à mes amis, s'ils ne l'acceptent pas, qu'elles ne les acceptent pas, voilà.
Oui.
Mais souvent, je sais que mon entourage, ils acceptent tous. Et voilà, après, avec mes parents, on a créé une association, en fait. C'est une action que mon père a créée et a proposée à d'autres papas pour sensibiliser le plus de monde possible sur les handicaps rares, les maladies rares et les personnes sans solution.
Oui.
Et aussi pour la parole un peu des dents, mais ça c'est plus des dents en général, et aussi la place des pères dans le monde du handicap au quotidien. Et en fait, cette association, du coup les Solidades, m'a permis aussi de trouver vraiment ma place dans ma famille, dans mon entourage, et assumer en fait que je suis jeune aidante.
Oui, vous pouvez rappeler le nom de l'association ?
Solidades,
d'accord. Et donc vous en faites partie, vous faites aussi partie de l'association JAD. Ça vous apportait quoi justement ces films que vous faisiez dans les ateliers JAD ?
Ça m'a apporté beaucoup. J'étais quelqu'un qui ne m'exprimait pas du tout et en fait j'ai pu m'exprimer comme je le voulais. Et il n'y a vraiment aucun jugement et je peux me libérer, parler d'une chose que je ne parle pas d'habitude, donc de l'handicap de mon frère. Et en fait, ça m'a libérée, ça m'a fait extrêmement du bien.
Oui. Quand vous repensez au passé, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu faire justement parce que vous étiez jeune aidante ?
Je pense que si je ne les ai pas faites, je me dis pas, je suis un peu mal parce que je ne les ai pas faites. Je me suis dit, c'est fait, il faut que je reste. Donc, c'est la vie, en fait, et je la prends comme elle vient. On vit un peu le jour le jour.
Oui. Allez-y, François.
Si je peux me permettre une petite question à Amélia. Bonjour, Amélia.
Bonjour.
Maintenant, tu as 18 ans, tu as fait tout un parcours avec JAD, avec les Solidades, tu as beaucoup réfléchi. Ta vie d'adulte commence. Qu'est-ce que cette expérience des danses a changé dans la construction de ta personne ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, à ton avis ?
De la maturité. Beaucoup de maturité. J'étais beaucoup plus mature que d'autres que des jeunes de mon âge, même encore aujourd'hui. Je suis, comme on peut m'appeler souvent, la maman du groupe.
Ah oui.
Je suis toujours là à dire « Attention, fais pas ça, ça peut être, tu peux te faire mal. » J'ai toujours une trousse de secours sur moi alors qu'on va juste au cinéma ou juste se promener.
Oui.
Mais en fait, je pense toujours à « Il peut se passer ci, il peut se passer ça. » Il faut toujours que je fasse attention. Je suis comme la maman du groupe.
Oui. T'es devenue très responsable, quoi. Ultra responsable.
Oui. Et Amélia, j'imagine que ça vous a donné des compétences. Vous devez être très organisée, vous devez être très, très attentive.
Oui, je fais très attention aux moindres choses. Même en cours, quand je vois quelqu'un qui ne se sent pas bien, je le remarque direct et je vais direct le voir. Je fais vraiment attention à tout. Et voilà, la maturité, l'autonomie, faire attention aux autres. En fait, à tous les petits points un peu d'adulte, je les ai eus plus tôt, on peut dire ça comme ça.
Oui. Mais vous n'avez pas perdu ? Est-ce que en devenant adulte plus tôt, vous avez souffert en même temps de n'avoir pas été enfant assez longtemps ?
J'ai pas vraiment souffert parce que j'ai vécu mon enfance comme il se doit. Je me suis amusée comme tous les enfants. Plus petite, je m'amusais plus. Et c'est vrai, en grandissant, je perdais un petit peu la notion, mais toujours en gardant un petit peu mon âme d'enfant. Moi, je me retrouve avec mes cousines ou avec des amis, je garde cette âme d'enfant, même si derrière, il y a quand même une partie de moi qui dit qu'il faut que je me fasse attention à ça.
Oui. Amélia, vous avez 18 ans, donc vous êtes encore toute jeune. Vous savez donc vers quelle carrière vous allez vous diriger ? Vous savez ce que vous allez faire plus tard ? Ça a un lien avec votre aidance ?
Pas du tout. En fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Pour l'instant, je fais des études de musicologie.
Oui.
Parce que je fais de la musique depuis que je suis petite, c'est ma passion. Et c'est vrai que souvent, j'avais remarqué qu'à l'hôpital, il y avait beaucoup de musiciens qui passaient dans les chambres pour jouer un peu de musique pour les patients. Et je sais que pour l'instant, ce n'est pas possible avec mon emploi du temps universitaire, mais je sais que peut-être pendant les vacances, je sais que ça me dirait bien de travailler ou même de bénévolement, d'y aller pour jouer un petit air au moins à quelques patients pour leur redonner un peu le sourire.
Oui, François ?
Oui, je crois que de ce que je te connais, Amélia, je crois que tu aimes beaucoup t'occuper des enfants. T'occuper d'enfants, garder des enfants, et que tu as un savoir-faire avec eux, et que tu l'as forgé avec ton frère, mais c'est aussi une façon pour toi de retrouver de l'enfance.
Oui, je suis d'accord. C'est ça, en fait.
Oui. Amélia, toi qui es maintenant adulte, enfin jeune adulte, tu as 18 ans, quels conseils vous pouvez donner, tu pourrais donner à de tout jeunes aidants ou des aidants un peu plus âgés pour mieux vivre cette situation, pour mieux gérer tout ça?
Après, on n'a pas tous la même situation, mais déjà en parler, ça fait extrêmement bien.
Oui.
Moi, je sais que quand je croise de jeunes aidants, je leur parle directement de l'association Jazz. Parce que ça peut leur faire du bien s'exprimer, parce qu'ils ont, pour eux, ils sont dans leur cocon, c'est normal, comme je me disais quand plus jeune, c'est normal, ils sont dans leur quotidien, et vraiment, en parler déjà, ça fait extrêmement du bien, voir qu'on n'est pas seul dans cette situation, et en parler, en fait, je pense que c'est vraiment le gros point, souvent pour s'exprimer, c'est la meilleure chose, même une personne timide peut s'exprimer comme elle le sent, hein, devant une personne de confiance.
Oui. Ça soulage, ça donne de l'énergie d'en parler, c'est quoi exactement?
Comment?
Ça soulage d'en parler, ça vous donne de l'énergie, qu'est-ce que ça produit?
Ça soulage, et aussi on voit qu'on n'est pas seul en fait dans ce cas, et que et parler avec d'autres jeunes aidants ou juste aidants, on se retrouve et c'est comme si on avait une autre communauté, sauf que notre communauté, mais c'est pas vraiment une communauté. C'est, oui. On a un statut, quoi. On voudrait avoir notre statut parce que c'est assez compliqué aussi pour le scolaire, tout ça. Et souvent,
quand vous devez vous absenter, comment ça se passe, Amélia? Vous devez vous absenter pour aider votre frère. Et comment vous faites? Est-ce que l'école l'excuse? Comment ça se passe?
À partir du moment où j'ai un justificatif, ils n'ont pas le choix de la justifier, mais je sais que. Les profs ne savent pas du tout ce que c'est des jeunes aidants, parce que j'ai écrit au début de l'année que j'étais jeune aidante l'année dernière à une de mes profs, et c'est vraiment à la fin de l'année où elle s'est posé la question, c'est quoi jeune aidante? J'ai vu qu'il était pas, des fois, il n'était pas là. En fait, pourquoi? Et en fait, ils ne savent pas du tout, ils ne sont pas du tout informés.
Oui.
Ils ont la raison, mais ils ne cherchent pas trop pourquoi, en fait.
Oui, oui. Amélia, on vous remercie de votre témoignage.
Merci à vous.
On vous remercie beaucoup. Vous allez voir, regardez le documentaire qui aura lieu demain, qui passe demain sur France 2, Plus grand que soi.
Oui, oui.
Voilà, donc si vous pourrez peut-être reconnaître certaines des choses que vous avez pu vivre. Merci beaucoup, Amélia, de votre témoignage.
Merci à vous.
Je souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, au revoir.
Eva, vous avez entendu le témoignage d'Amélia, évidemment vous reconnaissez dans ce qu'elle dit. Vous avez aussi vous-même des conseils, on parle d'en parler, il y a d'autres choses?
Je pense que je répéterai un peu ce qu'a dit Amélia. En parler, ça fait vraiment du bien, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver, de savoir à qui en parler. Déjà rien que voir autour de soi si des amis ne vivent pas des situations un peu similaires, ça peut être une porte d'entrée pour la parole, et puis se tourner aussi vers l'association JAD qui pourra en gros avec l'association JAD on peut parler avec d'autres jeunes aidants aussi.
Et vous trouvez par exemple des trucs qui peuvent vous aider? Il y a des petites choses, des techniques, je ne sais pas, des idées qui vous ont aidé en discutant avec les autres?
Pas vraiment. Moi en tout cas non, mais rien que le fait de connaître et reconnaître d'autres jeunes aidants, ça fait déjà du bien parce qu'on, comme l'a dit Amélia, on sait qu'on n'est pas seul et que d'autres personnes vivent des choses similaires à nos situations. Donc rien que ça, c'est déjà un soulagement.
Oui, et Amélia parlait d'un statut. Ça, évidemment, j'imagine que vous le souhaitez aussi, mais ça vous aidera en quoi?
Je pense que c'est surtout dans le cadre scolaire que ça peut aider certains jeunes aidants qui déjà ne savent pas comment en parler à leurs profs ou n'ont pas forcément envie d'en parler. Je pense que si, en fait, c'est surtout l'information. Il faudrait que le terme de jeune aidant soit connu davantage déjà dans le cadre scolaire pour que les professeurs, tout le personnel d'éducation soit au courant et soit un peu aussi alerte aux situations qu'ils peuvent observer.
Oui. Vous-même, vous avez dû souvent vous absenter lors de votre scolarité?
Moi, personnellement, non. Mais je connais beaucoup de jeunes aidants qui ont eu du mal à suivre les cours, ou même qui ont été beaucoup fatigués pendant les cours, et ça a eu un impact sur leur scolarité. Moi, ça n'en a pas trop eu. Mais c'est plutôt dans les relations avec des amis. Ça m'est déjà arrivé aussi de refuser certaines sorties.
Donc on s'isole vite, finalement.
On peut s'isoler, ouais. Et puis un autre exemple aussi, ma sœur, quand on n'avait pas encore fait de travaux chez nous pour que mon frère puisse lui-même ouvrir le portail et la porte, elle devait à chaque fois se dépêcher de rentrer des cours pour ouvrir à mon frère avant que mes parents ne rentrent. Donc ça aussi, ça a un impact sur la vie sociale avec les autres de notre âge. Parce que...
Et puis c'est une inquiétude de toute la journée, finalement. Il faut que je pense à être là-bas, à me dépêcher, il ne faut pas que j'oublie.
Oui, c'est ça. Bon, c'est ma sœur qui le faisait parce qu'elle était plus près, mais moi-même, j'y pensais parfois et ça me faisait aussi de la peine pour ma sœur qui peut-être passait à côté de certaines choses qu'elle avait envie de vivre à côté, mais bon.
Oui, il n'y avait pas le choix.
Non, il n'y avait pas le choix.
Il y a des moments où vous vous dites, mais j'en ai ras-le-bol, il faut changer ça. Non, il y a des moments de frustration, de colère.
Moi, c'est plus de la colère envers la maladie, tout simplement. Parce que des fois, on en a marre de... moi, j'en ai pas marre d'aider, mais j'en ai marre que mes parents soient fatigués d'aider mon frère, surtout. Et j'aimerais bien davantage les soulager, mais...
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez ?
Je sais pas trop. J'ai toujours envie d'en faire plus, mais une solution extérieure, je sais pas trop, parce qu'on a déjà eu des personnes qui aidaient mon frère à domicile le matin, mais ça lui convenait pas trop, et au final, mes parents aussi préféraient l'aider eux-mêmes. Donc,
Oui. Il y a des solutions, François, il y a des choses.
J'ai l'impression que, sauf dans les cas sociaux compliqués, dans la plupart du temps, les solidarités familiales s'organisent déjà très bien. Naturellement, les familles font dans la famille de Eva. D'ailleurs, la famille s'est construite quelque part autour de cette difficulté. Ça fait des tristesses et ça fait quelques bonheurs singuliers que vous avez grâce à l'expérience de Lubin, je crois.
Ouais.
Il y a donc les familles se débrouillent pas si mal. Après, il y a des différents mécanismes sanitaires et sociaux qu'on ne va pas diversifier.
Oui.
Concernant les jeunes, je crois qu'il faut d'abord... la notion de statut est importante, effectivement, parce que vis-à-vis de l'administration scolaire, c'est à la discrétion du prof ou du conseiller d'éducation.
Donc il peut y avoir des refus ?
Bien sûr, il y a des élèves qui ne pourront jamais dire « je suis aidant », etc., parce qu'ils vont se prendre un tir au collège, au lycée, et d'autres, tu fais ce que tu veux. Martin le dit, il était dans le film, il est tombé sur une CPE qui lui a dit « tu t'absentes autant que tu veux, c'est toi qui fais ton programme maintenant
».
Mais ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu lui ruiner sa scolarité avec un dossier seconde, première, terminale pourri, et c'est fini. Quoi.
C'est fou,
irrégulier, etc., sans intégrer la notion d'aidance. Alors ça, le statut, il sert beaucoup à ça, après rémunéré, je ne sais pas comment, les détails, il y a des professionnels pour ça. Après, l'autre chose qui me paraît importante, c'est surtout libérer la parole des jeunes aidants, et qu'ils se reconnaissent comme tels. Je crois déjà qu'en parler, on dit que en parler, ça résout pas tout. Ça résout pas mal de choses quand même, parce que ces enfants, entre guillemets, alors ça dépend de l'âge, grandissent dans des situations anormales dont ils ne comprennent pas pourquoi c'est anormal. Donc, faut à un moment donné poser les choses sur la table. Pourquoi j'ai toujours cette angoisse, le sentiment d'avoir un bout de cerveau pris ailleurs, cette fameuse question de loyauté. Donc, ils ont tous ce stress, mais ils ne le savent pas. Donc, le fait d'en parler, de se dire « c'est normal que tu es stressé », ne te culpabilise pas, ne te remets pas en question dans ton stress. Ce stress fait partie de ta vie parce que tu as ça. Ça réduit considérablement la pression. Après, il y a une question que je leur ai posée à tous. Et j'étais très déçu sur la réponse. Enfin, très déçu. Heureusement déçu, on va dire, je ne sais pas comment dire. Je leur ai demandé tout, je crois, est-ce que vous ne trouvez pas que la vie est injuste ? Parce que c'est une question avec laquelle ils se débattent depuis toujours. Ils naissent dans une famille, grandissent dans une famille où c'est injuste. Pourquoi mon père est comme ça ? Pourquoi mon frère est comme ça ? Et alors là, systématiquement, j'ai eu des réponses, bah oui, la vie c'est comme ça, on ne va pas passer notre temps à se plaindre. L'injustice de la vie, ils s'en foutent. Ce ne sont pas des victimes.
Oui.
Ce ne sont clairement pas des victimes. Ils ne sont pas dans la plainte. Ils ont été vraiment construits face à l'épreuve dans une autre attitude que victimaire. Que la vie soit injuste, que telle maladie ou telle injustice tombe sur une famille, oui, c'est vache, c'est raide, c'est dur, c'est violent, c'est brutal, ça fait mal. Voilà, c'est comme ça, on ne va pas refaire la vie. Mais c'est pareil, cette injustice, ils la sentent.
un enfant qui vit l'injustice peut devenir agressif parce qu'à un moment donné, il veut taper, il veut comprendre, il veut vérité soit rétablie. Et si on en parle, l'injustice, avec lui, il dit oui, ta vie est dans l'injustice, il y a une forme d'injustice, mais là, ça fait partie de la vie en général. À un moment donné, ça reprend aussi plus de fluidité. Il peut vivre avec ce sentiment sans agressivité. Donc, ces fameux signaux muets ou faibles qu'ils peuvent avoir entre eux quand ils se reconnaissent. À mon avis, c'est toutes des petites questions comme ça. On n'imagine pas, on sait très bien, mais on n'imagine pas les milliers de questions complexes et incroyables que les enfants peuvent se poser petits avec des interprétations des fois erronées d'une réalité qui va ensuite les embêter pour le reste de leur vie.
Et par exemple, vous avez quelque chose en tête ?
J'ai un exemple personnel, par exemple. Je vais vous donner c'est tout con.
Oui.
Quand c'est une histoire de, je me suis pas séparé, ma première femme et moi sont séparés. Des gens visitaient notre maison pour prendre, enfin, notre appartement pour louer derrière nous. 5 ans plus tard, j'ai disparu plusieurs mois pour un film dangereux. J'ai réapparu fort heureusement. J'étais vraiment sans signal radio. Ma fille, qui avait à ce moment-là 7-8 ans, a eu très peur et est revenue vers moi. Elle m'a dit « J'avais peur que tu n'allais pas revenir quand vous vous êtes séparés et je voudrais savoir si ça existe, les voleurs de maison. » Je lui ai dit « C'est quoi un voleur de maison ? »
Oui.
Quelqu'un qui vient prendre la maison, qui l'emporte ? Non, non, quelqu'un qui vient, qui la pousse, etc. Et finalement, je comprends que de ces 3 ans, elle avait perçu que les gens qui venaient visiter la maison était venu voler la maison, et c'est comme ça que ses parents s'étaient séparés. C'est à cause de ça qu'ils s'étaient séparés. Et c'est mon absence de 5 ans plus tard qui a fait remonter cette anxiété.
Et, oui.
Et qui m'a fait voir qu'elle avait une interprétation parfaite. Elle s'était posé des bonnes questions. Mes parents m'ont séparé, je vois des gens venir, aller, etc. Donc elle s'était posé les bonnes questions, sauf qu'elle n'avait pas les réponses.
Oui.
Alors c'est pas un exemple dans les danses, mais je pense qu'on peut l'adapter en tout point de vue, je crois.
Oui, mais effectivement, il y a des choses comme ça à dire. Il y a des, vous-même, Eva, vous avez eu des questions, des choses
marche,
que vous avez crues qui se sont révélées fausses
sur la confiance
en moi. Je crois que sur le temps que tu as mis à réaliser les choses, sur la marche, tout ça, peut-être d'autres choses, je ne sais pas.
Oui, moi, je me suis beaucoup, pendant mon adolescence, posé des questions sur plutôt le futur. Des questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse maintenant non plus, hein, parce que il y a des questions auxquelles, enfin, il y a des questions pour lesquelles les réponses viennent en vivant les choses, mais c'était plutôt des questions un peu anxieuses sur comment ça va se passer plus tard si je vis loin de mon frère et de mes parents, comment ça va se passer quand je vais quitter la maison, il y aura plus que ma sœur, ensuite quand ma sœur va partir, il y aura plus que mes parents avec mon frère, et mes parents vieillissant ils vont finir épuisés, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas nous, enfin maintenant encore je sais pas comment ça se passera, mais c'est plutôt des questions comme ça.
Oui, oui, et puis il y a une réalité, vous allez devoir, vous et votre sœur, un jour quitter le cocon familial.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc il y a tout un parcours de jeune aidante, vous allez devenir aidante tout au long de votre vie, vous serez toujours aidante.
Bah, je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Enfin, ma sœur, en tout cas, elle nous a dit, moi, je vivrai jamais très loin de vous, ou en tout cas pendant pas très longtemps. Enfin, elle s'imagine en tout cas qu'on vive... assez proches les uns des autres. Moi, au niveau de la localisation, je sais pas, mais en tout cas, je sais que on sera toujours là les uns pour les autres, même si c'est pas de l'aide physique, ce sera toujours de l'aide morale, enfin mentale.
Vous serez toujours très très proche.
Ah oui,
c'est
sûr.
C'est une certitude pour vous, Eva.
Ouais, c'est important pour notre bien-être à tous les 5.
Oui. Eva, vous êtes jeune aidante et vous faites partie de cette association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui accueille des jeunes aidants, de moins jeunes. Et vous avez bénéficié et maintenant vous donnez de votre temps aussi pour cette association. On termine cette émission. François Chilovix, vous êtes réalisateur et votre film documentaire justement sur ces jeunes aidants, dont Eva fait partie et elle fait partie de ce film, passe demain sur France 2. Un petit mot avant de conclure justement sur votre film.
Alors, donc, le film, c'est un documentaire où j'ai suivi 3 familles d'aidants, de jeunes aidants. Donc il y a 4 jeunes dans une famille, il y a 2 enfants, avec des situations très très différentes. Moi, je vous invite à le voir, je préfère ne pas commenter avant. Le film s'appelle « Plus grand que soi ». Je pense que on comprendra très vite les raisons du titre. Ces jeunes passent par une chose qui est trop grande pour elles et ils se construisent avec ça.
Voilà.
Voilà. Et par ailleurs, si ce film intéresse, tous mes autres documentaires sont disponibles sur une chaîne à mon nom, sur YouTube. Tous les documentaires que j'ai faits pour France 2 Infrarouge et pour Arte, il y en a une vingtaine, sur plein de sujets de société très différents, sont disponibles sur YouTube à une chaîne qui porte mon nom.
Voilà, gratuitement, qu'on pourra voir gratuitement. Par contre, le film Plus grand que soi qui passe sur France 2 demain à 23h05, il faudra attendre 6 mois pour le voir sur votre chaîne YouTube.
Bien sûr, oui, je laisse la précédence au diffuseur, c'est normal.
Voilà, merci à vous deux et puis merci à Amélia également. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que demain, il y a une émission spéciale. Nous sommes en direct de Brive-la-Gaillarde pour parler toujours des aidants avec un village de vacances pour les aidants.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.